France Culture.
À voix nue, cette semaine, Sylvie Vartan s'entretient avec David Arthur. Aujourd'hui, cinquième volet, un cœur polyglotte. Bonjour Sylvie Vartan.
Bonjour.
Vu par vous, quelles sont les chansons que vous avez préféré chanter, où vous avez eu le plus d'émotions, plus de...
Ah, c'est difficile parce que j'en ai chanté tellement, au moins. Mais je dirais que j'ai... Mon père, c'est une des chansons que j'aime toujours chanter avec un plaisir renouvelé, différent à chaque fois.
Vous y mettez des sentiments différents à chaque interprétation ou vous
Non,
êtes
mais
sur
c'est-à-dire
même...
que c'est une chanson intemporelle et qui me touche toujours autant, qui a gardé sa vérité et la profondeur des sentiments qui sont intacts. Elle ne s'émousse pas. C'est quelque chose qui est toujours vivant en moi. La Maritza. Darina, Petit Bateau, Emma, ce sont les chansons qui sont pour mes filles.
Oui, qui sont ce que j'allais vous le dire, tout est lié à la
famille. Ce sont des merveilleuses chansons. Mais oui,
ce ne sont que des chansons.
C'est peut-être ce qui me touche en priorité, certainement. Et puis des chansons, oui, qui bougent. Des chansons comme. Toutes les chansons rythmées, que ce soit « L'amour, c'est comme une cigarette », d'Ado Ranran, des chansons qui me font danser. Mais c'est souvent les chansons lentes, au fond, qui restent, même chez le public, je pense. Les grandes chansons dans le monde entier ont toujours été des chansons lentes. Chez chaque artiste, au fond, on se souvient avant tout et en priorité des chansons lentes. Je ne sais pas pourquoi, c'est lié à une certaine mélancolie ou une chanson comme Aimée aussi de Jean-Loup Dabadie et de mon frère Eddy, une merveilleuse chanson. Une chanson, par exemple, assez récente qui s'appelle Rupture, écrite par Frédéric Boton, que j'aime beaucoup chanter. Voilà, il y a des choses comme ça. Et puis, de mon dernier disque, j'adore Suzanne de Leonard Cohen, qui est une adaptation de All Right, qui a fait cette adaptation française, qui est très planante. Il y a un magnifique arrangement
et vous êtes très dans le mood.
Ah oui, elle est moody, cette chanson. Elle me met dans un état second quand je l'entends. D'ailleurs, je l'ai enregistrée en une seule fois. C'était la première prise, était la bonne. C'est parce que l'arrangement m'a été vraiment très inspirant.
Vous avez une explication au fait que quand on regarde la photo mythique de Jean-Marie Perrier de Salut les copains, vous êtes trois aujourd'hui à avoir survécu à toutes les modes, toutes les époques sur cette photo. C'est Eddie Mitchell, Johnny Hallyday et vous. Les autres ont eu des carrières plus en dents de scie ou des carrières qui existent toujours, qui ne sont pas du tout à...
Vous voulez dire qu'il continue à chanter sur scène,
qui continue à chanter sur scène, mais surtout qui continue à transporter leur public toujours aussi loin.
Ils font partie de mes bagages. Oui, mais... c'est vrai qu'aujourd'hui, je me rends compte à quel point je suis gâtée d'avoir toujours cette possibilité de communication avec le public, de les avoir là, présents aussi. Bruyant aussi. J'ai un public extrêmement bruyant qui manifeste, qui participe. Et ça, j'ai besoin de ça. J'ai besoin de ce contact, de leur bruit, de leur façon de me montrer qu'ils sont touchés ou qu'ils passent un bon moment. Et c'est vrai qu'il faut que le temps ait passé pour se rendre compte de ces choses-là. Parce que sur le moment, j'étais percutée par toutes ces émotions, mais je ne m'en rendais pas compte. Ça faisait partie du quotidien et c'était évident quelque part d'une façon très inconsciente, mais Au fond, c'est au fil des années que l'on tisse une amitié aussi profonde, parce que c'est vrai que j'ai fait énormément de scènes, et c'est ce qui fait, qui crée ce lien, je crois, parce que ce sont des rendez-vous toujours plein de bonheur, et puis on est transporté pendant 2 heures, on flotte au-dessus du quotidien, on est là, on oublie tout ce qui nous agace et qui nous angoisse, et juste pour passer un bon moment, on est ailleurs, c'est merveilleux. Donc c'est vrai que j'en ai besoin de ça.
Il y a un rendez-vous angoissant que vous avez reporté, je pense, pendant des années et des années et des années, c'est votre retour en Bulgarie.
Oui, ça c'est vrai que je l'ai reporté, oui. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, ce concert demeure le plus bouleversant pour moi. Évidemment, chacun d'entre eux, comme je le disais précédemment, chaque concert m'a apporté quelque chose et m'a enrichi. Et m'a... Mais celui-ci, tout particulièrement, a été au-delà. Ce n'était même pas un concert. C'était, je ne sais pas, c'était au-delà du concert.
C'était un récital.
C'était un récital, c'était un happening, c'était une messe, c'était une communion, c'était un tout. Et j'étais complètement en lambeaux quand je suis sortie de ce concert. Il était unique. Et j'étais comme une poupée de chiffon, en fait. Ça a duré des minutes interminables. À la fin, je n'arrivais pas à partir, et eux n'arrivaient pas à me laisser partir. Et j'étais en larmes en permanence pendant les 12 jours qui ont suivi ce concert.
C'était,
et où
c'était
j'ai
revisité. Sofia.
C'était à Sofia, oui. C'était pour une émission de France 2. Et qui était une émission qui était destinée aux fêtes de Noël. Je me disais, mais mon Dieu, je disais à Marité, à Gilbert Carpentier, je disais, mais vous êtes bien sûr que ça va être une émission de Noël? Je suis en larmes perpétuellement, parce que c'était extrêmement émouvant de retrouver ce pays dans l'état où il se trouvait à l'époque, c'est-à-dire dans le même état où je l'avais quitté.
Qu'est-ce que vous avez ressenti en descendant de l'avion? Est-ce que vous avez senti le choc dès l'aérogare?
J'ai commencé à ressentir le choc déjà, et mon cœur se serrait de plus en plus fort dès que je voyais les nuages devenir de plus en plus bas, puisque c'était la première fois que je retournais vers l'est. Je volais toujours vers l'ouest, et c'était la première fois. Et je me disais, voilà, on va bientôt arriver, ça va être le moment.
Vous aviez peur?
Oui, j'avais peur. Oui, j'avais peur, j'avais beaucoup d'appréhension. Et puis, mon frère y avait été en éclaireur, justement, pour les repérages avec
l'équipe technique.
L'équipe technique. Et il était revenu complètement défait. Enfin, il m'a dit, écoute, attends-toi, je suis de très dur à supporter. Et ça a été le cas.
Oui, donc c'est, encore une fois, c'est le spectacle qui vous fait aller vers quelque chose de très intimiste.
Oui,
ça, vous
ça
n'y êtes pas retourné par vous-même, sans caméra, sans rien. Et finalement, comme vous ne pouvez pas dire non à l'accord... annuler l'accord que vous venez de donner à Marité et Gilbert Carpentier.
Oui, c'était des amis, ils m'ont persuadé en même temps. Et puis le mur de Berlin venait de tomber, et donc je ne cautionnais plus ce régime haïssable. Donc je suis retournée, disons, un peu plus légère. Mais c'est vrai que maintenant je ne le regrette absolument pas, parce que j'ai revu les endroits où j'ai grandi.
Vous avez retrouvé des odeurs?
Oh, j'ai tout retrouvé.
Des parfums.
Tout retrouvé. C'est terrible. D'ailleurs, la Bulgarie, pour moi, reste quand même le pays de la nostalgie, le restera toujours. Ça, c'est... Quoi qu'il arrive, dès que j'entends la langue, déjà, j'ai les larmes au cœur, quoi. J'ai beaucoup de mal, surtout que maintenant, ma mère n'est plus là non plus. Donc, ça m'est encore plus pénible. Parce que tout ça, ce pays-là est lié... dans le sang, je veux dire, à tous ces moments vécus là-bas, et à mes parents.
Vous avez retrouvé l'appartement dans lequel vous viviez enfant, ou la maison de votre grand-père?
Oui. Je l'ai retrouvé, il était dans l'état, enfin, très abîmé, mais rien n'avait changé au fond. Tout était un peu délabré, et évidemment, Mais tout était là, la peinture écaillée, la couleur de l'escalier, la tapisserie au mur, un peu plus sale, un peu plus défraîchie, évidemment, et puis tout.
Il y a un objet que vous avez essayé de pouvoir conserver de ce voyage?
Oui, je voulais racheter à cette dame qui avait repris la maison de mon grand-père le fauteuil où il s'asseyait et où je m'asseyais sous ses genoux quand il me racontait ses histoires. Mais elle ne voulait pas s'en séparer parce qu'à l'époque, elle disait, vous savez, madame, je vous le vendrais bien, mais malheureusement, avec l'argent, je ne pourrais même pas en acheter un autre parce qu'il n'y en a pas de disponible. Alors que voulez-vous faire? Donc il faut se résigner à dire que le passé, il est là où il est, il faut le laisser là où il est. Et puis voilà, donc... enfin, le fauteuil, il est dans mon cœur.
Vous avez un Rosebud? Comme Foster Kane dans Citizen Kane ou pas?
J'en ai beaucoup, mais je dirais peut-être qui symboliserait un petit peu tout ça, ce lien entre la Bulgarie, la France, et ça serait mes bottines marron que ma mère a achetées avec mon premier cachet quand j'ai tourné le film en Bulgarie, justement pour cette raison. Pour acheter cette paire de chaussures. Et je regrette de ne pas les avoir. C'était des chaussures que je n'aimais pas trop. Mais en fait, c'est avec elles que j'ai foulé
le sol français
et qui m'ont amené bien loin. C'était grâce à ces chaussures, à cause du film que j'ai tourné, que
le
déclic s'est produit et j'ai décidé, et je me suis dit que je serais artiste un jour, quoi qu'il arrive. Et donc, ces chaussures m'ont mené assez loin de la Bulgarie.
Quand vous revenez pendant que vous êtes en Bulgarie sur ce voyage, vous sentez que vous pouvez amener et apporter quelque chose à ce pays ou... C'est-à-dire, il y a quelque chose... Vous êtes là en vous disant que vous avez, pas une dette à payer, mais quelque chose
à faire.
Non,
mais c'est vrai que je me sentais... j'avais un sentiment de culpabilité quelque part qui n'avait pas raison d'être au fond, mais c'est vrai que je me disais la chance que j'ai eue d'avoir eu un père qui nous est sorti de là et la chance que j'ai de pouvoir chanter, de pouvoir revenir. J'avais l'impression que dans les yeux de tous ces gens qui me regardaient, il y avait cet espoir, cette espérance, et je le sentais très fort aussi dans les rues. Parce que, comme je le disais, c'était au lendemain du démantèlement du mur de Berlin. Et donc, il y avait un espoir immense qui se sentait dans ce pays-là. Alors qu'il n'y avait rien. Il n'y avait toujours rien. Il n'y avait rien. Tout était vide, des queues interminables, comme quand nous l'avions quitté, d'ailleurs. Donc, mais il y avait cet espoir chez les gens. Et ça, c'était extrêmement palpable et très fort. Et ça m'avait vraiment bouleversée. Et avec mon frère, on s'était dit que... Bon, évidemment, on avait beaucoup de gens qui connaissaient nos parents, qui nous ont abordés, qui sont venus nous parler, etc. Et donc, cette amie qui avait organisé ce concert bulgare, Fanny, m'avait glissé un mot en disant, tu sais, la situation des enfants, de la population est épouvantable, il n'y a absolument rien. Donc, quand nous sommes rentrés avec Eddie en France, nous avons décidé de créer cette association pour venir en aide aux maternités, aux enfants, aux orphelinats, aux personnes âgées, etc. De toute façon, il y avait tout à faire. On ne sait plus où donner de la tête. Et nous avons donc fondé cette association avec des bénévoles. À l'époque, avec une dame déjà qui était mariée avec un Bulgare, Hélène Gorgatchev, à Paris, qui avait une compagnie de transport. On faisait des paquets, des colis de nourriture qu'on envoyait déjà. Et puis petit à petit, la situation évoluant, évidemment, les choses sont un petit peu améliorées. Et puis mon association a commencé à équiper en berceau bleu, par exemple, toutes les maternités de Bulgarie. On continue notre programme, d'ailleurs, depuis les dernières 16 années que l'association existe, même 17, je dirais. On a équipé la Bulgarie de 30 berceaux bleus. Ce sont des lampes à phytothérapie qui guérissent les jaunisses des nourrissons et donc qui empêche le fait qu'ils soient transfusés. Et dans ces transfusions, la plupart d'entre eux mouraient. Donc, ils n'avaient pas cette espèce de couveuse, si on peut dire, qui est vraiment un élément de base dans toutes les maternités occidentales. Ils n'en avaient pas. Il n'y avait pas d'aspirine, il n'y avait pas de coton, il n'y avait rien. Les hôpitaux étaient délabrés. Il y a encore beaucoup de choses à faire, même aujourd'hui. Donc, on a vraiment les mains pleines. On a beaucoup de choses à faire encore, mais c'est extrêmement gratifiant de pouvoir aider et sauver des vies humaines, parce qu'au fond, quand on s'applique à cibler son action sur l'équipement médical, on est sûr que ça arrive à bon port et que les fonds ne peuvent pas être détournés, ne peuvent pas être revendus. On sait où les appareils arrivent, puisque on nous en demande et on nous dit, voilà, à tel endroit, ils ont besoin de telle ou telle chose, d'un scanner, de ci ou ça. Et donc, avec les cotisations et les adhésions, eh bien, on arrive à faire des choses formidables et qui aident beaucoup les enfants. On s'occupe des orphelinats également, parfois nous avons des actions culturelles, des choses comme ça. Mais c'est très intéressant et c'est très gratifiant. Je trouve que c'est normal que l'on puisse redonner un petit peu de la chance qu'on a eue à d'autres qui en ont eu moins.
Donc si on veut donner de la chance à ceux qui n'en ont pas eu, on peut écrire à l'association Sylvie Vartan pour la Bulgarie, boîte postale 99 75 462 Paris CEDEX 10.
Oui, exactement. Et c'est vrai, le moindre don est vraiment accepté et utile.
De cette démarche, est-ce que de cette démarche est née à nouveau votre envie d'être maman ?
Ah non.
Est-ce que ça vient de là ou est-ce que ça vient de vos petites filles ?
Ça vient du fait d'avoir simplement eu un seul enfant. J'en voulais beaucoup d'autres et puis ma vie a fait que je ne pouvais pas en avoir d'autres. Et puis... après, ma vie professionnelle a pris le dessus pendant un certain temps, puis j'étais seule, donc il n'était pas question pour moi d'être mère à nouveau. Donc j'ai attendu de trouver un papa pour avoir un autre enfant. Et c'est vrai que le choix s'imposait dans le fait que ma fille soit bulgare, qu'elle soit née dans ce pays.
Darina,
comme moi.
Comme vous.
Oui, mais disons que oui, c'était important.
Essentiel.
Oui, essentiel. Je trouve que c'est le fait qu'elle soit slave crée un lien encore plus fort.
Alors, comment s'est passée la première rencontre avec Darina?
Ah, mais c'était extrêmement émouvant. Je l'ai vue toute petite et bébé, les yeux fermés. Elle avait un pyjama de Mickey. c'était comme un petit clin d'œil à la vie, à moi.
Est-ce que quand on est Sylvie Vartan, ça facilite les choses pour pouvoir adopter un enfant ou tout le parcours de la DAS est identique?
Non, moi je n'avais demandé l'aide de personne et ça a pris 2 ans, oui, pour avoir l'agrément de l'ADAS. Et puis en Bulgarie, c'était d'autres complications aussi parce que c'était difficile d'adopter en Bulgarie un enfant en bas âge.
Ça vous a apporté quoi d'être maman à nouveau ? Parce que vous avez décidé d'être maman à nouveau à un âge finalement où les gens...
Baisse les bras,
se disent voilà.
Mais d'ailleurs, ma mère me disait, mais qu'est-ce que tu as besoin encore de te mettre ça? Mais moi, j'ai besoin d'être en contact avec l'enfance et les enfants. J'aime beaucoup les enfants et j'en ai besoin. Parce que moi, je suis peut-être un enfant. Il y a toujours un enfant en moi. Il y a toujours un enfant en chacun de nous, hein, certainement, de toute façon. Mais disons que chez moi, c'est assez prononcé. Et j'ai besoin de me sentir utile à quelqu'un. Voilà.
Alors, Darina parle français, bulgare et anglais?
Non, que français et anglais.
Que français et anglais?
Oui, oui.
Elle ne parle pas bulgare.
Et non, parce que moi, je ne le parle pas suffisamment bien pour. Et je pensais qu'il était quand même préférable pour elle de parler le français correctement que le bulgare. Ça lui servirait plus. Mais il n'empêche pas que peut-être plus tard, elle aura envie d'apprendre. Elle connaît des petits mots comme ça, comme tous mes enfants. Mais,
Et David ne parle pas non plus bulgare.
Non, il connaît certains mots, voilà.
Malgré le fait d'avoir été élevé avec votre maman.
Ah oui, non. Mais non, parce qu'on parlait principalement français. On parlait bulgare avec maman quand on ne voulait pas que les enfants comprennent, voilà. Ça les enrageait, évidemment. Personne ne comprend cette langue, donc c'était très pratique.
Et alors, Darina, aujourd'hui, est une jeune fille de quel âge ?
10 ans.
10 ans. Et alors, vous avez des soucis d'arithmétique, de...
Oui, de français, de propositions, de fractions et d'autres. Je m'y replonge.
Elle vous suit partout où vous allez ou...
De manière scolaire, ça se passe comment ? Enfin, oui, non, pour l'instant, elle est en France, parce que je suis en France pour un long moment. Donc, et puis, quand je suis aux États-Unis pour un moment aussi assez long, eh bien, elle va au lycée français de Los Angeles. Donc, elle suit les mêmes programmes de toutes les manières.
Et vous êtes grand-mère aussi.
Ah oui, oui.
Malgré
avec
votre...
Avec bonheur, oui.
Avec bonheur ?
Ah oui. J'ai des petits-enfants merveilleux que j'adore, qui sont mes enfants aussi d'ailleurs.
Quel est le regard de votre fille ou de vos petites filles sur vous quand elles vous voient sur scène ?
Mais je ne sais pas, on n'en parle pas, je ne leur en parle pas d'ailleurs. C'est quelque chose que l'on n'évoque pas, c'est une évidence, et puis c'est comme ça, ça fait partie de leur vie, et je n'y paye pas attention. Bien sûr, on ne fait pas de barrière. Moi, quand je répète, mais je répète. Bon, elle m'entend chanter, elle m'entend avec mon pianiste répéter, des choses comme ça. Mais bon, c'est tout naturel. Ça se fait naturellement. Il n'y a rien de...
Ça vous est déjà arrivé dans votre carrière que vos cordes vocales vous laissent un peu tomber ou pas ?
Oh là là, oui, surtout au début. Parce qu'en fait, comme je n'étais pas faite pour être chanteuse... Je n'avais jamais pris de cours de chant et puis je chantais en permanence, sans arrêt. Je faisais des tournées non-stop l'été, l'hiver, le printemps, partout. Et c'est vrai qu'à force de tirer sur les cordes, c'est le cas de le dire, je tombais souvent à faune et ça c'était vraiment un embarras terrible. Et donc un jour, j'ai failli avoir un nodule sur une des cordes vocales et... On m'a envoyé chez un coach aux États-Unis, à Los Angeles, justement, qui s'appelle Seth Riggs, et qui m'a sauvée, qui m'a donné des cours. Et j'avoue que j'ai mes CD avec moi, et ses cours, et je l'ai fait. Je touche du bois, sa méthode extraordinaire, classique d'ailleurs, puisqu'il est un coach des grands chanteurs d'opéra aussi, m'a sauvée du nodule et m'a placé ma voix comme il fallait, de façon à ce que... Évidemment, on est toujours tributaire d'un rhume, de quelque chose comme ça, hein, surtout qu'on est beaucoup plus fragilisé.
Oui, donc votre carrière repose sur le travail, avec un talent inné au départ.
Ah oui, il faut indéniablement du travail. Je sais bien que le travail est synonyme de manque de talent en France, mais peu importe, on n'arrive à rien sans travailler, de toute façon. Il faut le travail, mais le travail, pas en tant que tel, parce que le mot travail, c'est un côté péjoratif, on a l'impression d'un labeur. Non, le travail dans ces cas-là, c'est vraiment essayer de repousser ses limites, c'est un challenge avec soi-même. Je veux dire, c'est passionnant. C'est pas, et on ne peut s'améliorer qu'en faisant et en refaisant les choses et en repoussant ses limites. On ne peut pas y arriver si on n'y travaille pas. On ne peut pas faire ça dans son lit, hein, c'est impossible. On ne peut pas guérir son nodule sans prendre des cours de chant. On ne peut pas danser sans apprendre ses chorégraphies et sans assouplir son corps et réchauffer ses muscles. On ne peut pas faire des claquettes comme les faisait Fred Astaire et autres en restant immobile sur sa chaise. Non, il dansait des journées entières. Il ne se passait pas une journée. C'est Rubinstein qui disait « Si je ne fais pas mes gammes un jour, c'est moi qui m'en aperçois. Le lendemain, c'est ma femme et le surlendemain, c'est le public. » Et voilà, c'est tout. Quand on aime quelque chose et qu'on est passionné par ce que l'on fait, forcément, on le fait tout le temps et on essaie de le faire le mieux possible.
Et quand vous regardez en arrière, Sylvie Vartan, qu'est-ce que vous vous dites ?
J'ai le vertige, je ne regarde pas en arrière. Je regarde le moment présent et un futur immédiat. Je ne me projette pas dans un futur lointain et je ne regarde pas trop vers le passé, parce que le passé m'habite en fait.
Ben merci beaucoup Sylvie Vartan.
Mais c'était un plaisir. On ne se connaissait pas, on s'est retrouvés quand? Toutes deux nées là-bas, du côté des Balkans. Par quelle étrange histoire tout ça a commencé? Oh, je n'ai plus de mémoire, je n'ai plus de passé. Il m'a fallu t'attendre, il a fallu longtemps. De l'instant le plus tendre, plus fort des tourments. Je vais guetter les jours, les mois et le moment où tu diras bonjour, où tu diras maman. Darina, je sais comment dire je t'aime, jamais je ne l'ai dit autant. Darina, tout ce qui à toi m'enchaîne est tellement différent maintenant. Je sais qu'au fil du temps je devrais m'adapter, nous avons le temps de bien nous adopter. Je vais te voir grandir, je vais te voir courir. Je vais te voir tomber, je vais te voir pleurer. Darina, je sais comment dire je t'aime, mais jamais je ne l'ai dit autant. Darina, tout ce qui à toi m'enchaîne est tellement différent maintenant. Je sais qu'un certain soir nous parlerons vraiment, nous marquerons l'histoire d'un nouveau sentiment. J'aurai le cœur serré, j'aurai les yeux qui brillent. En te voyant danser, je dirais, c'est ma fille. Darina, je sais comment dire je t'aime, et jamais je ne l'ai dit autant. Darina, tout ce qui à toi m'enchaîne est tellement différent maintenant. On ne se connaissait pas, on s'est retrouvés quand? Toutes deux nées là-bas, du côté des Balkans.
C'était À Voix Nue, Sylvie Vartan s'entretenait avec David Arthur. À la prise de son, Alain Joubert. À la réalisation, Nathalie Trianda-Philides. Vous pouvez réécouter les émissions pendant une semaine sur le site www.franceculture.com.